One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 641 du podcast Touch en Actuel. Mathé, très heureux de vous retrouver pour commencer le débrief de la quatrième semaine de la saison NFL 2023. À mes côtés, Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel.
Hey, bonjour Alain, bonjour tout le monde.
Content de t'accueillir, notre joker officiel de cette saison sur les débriefs. Comment ça va, ton premier débrief?
Oui, cette année, ouais, j'ai déjà fait une preview, là c'est le premier débrief. Ça fait plaisir de parler un peu de la NFL, c'est vrai que j'adore le football universitaire, mais quand même la NFL c'est le numéro 1, donc ça fait plaisir.
Et ben on va parler de plein de belles choses aujourd'hui, Jean-Michel, d'un carton, d'une surprise, d'un sauvetage du côté... un carton, je suis en train de me demander si j'ai pas repris mon intro de la semaine dernière, en fait, là, tu vois. Je crois que j'ai fait une petite faute de frappe et de copier-coller. En tout cas, on aura un carton, ça c'est sûr, avec les Bills, la descente aux enfers des Bengals qui continue, et la belle surprise, c'est des Buccaneers qui sont peut-être bien plus fringants que ce qu'on attendait du côté de la Nouvelle-Orléans cette semaine. Je dis pas quel t-shirt, mais sachez que Jean-Michel a un t-shirt. Mais on va pas dire, parce qu'après on va nous accuser d'être biaisés. Mais il porte un t-shirt avec du bleu. Voilà, je dis juste ça. Avant de démarrer, je vous rappelle que les émissions du mois de septembre vous étaient présentées par Sisplay et on fait un petit bonus en octobre. C'est toujours présenté par Sisplay et on vous rappelle que tous les dimanches, vous avez une affiche NFL en direct et gratuitement sur Sisplay. C'est le reveal, parce que c'est le premier endroit où on annonce les affiches, c'est le podcast débrief des affiches. Ce dimanche, l'affiche sur Sisplay, attention, suspense, on ne l'a pas encore annoncé, ce sera Dolphins Giants. Pas mal, on va essayer de voir les Dolphins rebondir. Et ce sera Lucas Vola, une nouvelle fois au commentaire, avec cette fois un petit nouveau aussi, puisque Victor Roulier va faire ses débuts au poste de consultant. On va commencer, nous, Jean-Michel, avec les Bills. 3 victoires, 1 défaite contre les Miami Dolphins. 3 victoires, 1 défaite aussi également. Maintenant, 48-20 pour Buffalo. C'était le choc de la semaine. Il a été un peu à sens unique, en tout cas pas au début, le match était équilibré, 14 partout dans le second quart, mais les Bills se sont vite détachés, 31-14 à la pause. Ils ont marqué des points sur 8 de leurs 9 premières possessions. Josh Allen a été énorme, évaluation parfaite pour lui, 21 sur 25, 320 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Jean-Michel, il a répondu à toutes les attentes, tous les doutes peut-être qu'on pouvait lui opposer un petit peu en début de saison, où ils ont eu un début de saison plus difficile et moins de hype aussi que Miami.
Non, mais c'est ça. Mais de toute façon, le truc, c'est que Josh Allen, on le sait, c'est un très très bon quarterback. Donc forcément, un très bon quarterback, t'as de grosses attentes. Et effectivement, il a commencé la saison, c'était un petit peu en dessous des attentes. Et puis la semaine dernière, déjà, c'était très bien. Puis là, il a mis tout le monde d'accord. Je veux dire, voilà, il a distribué 8 receveurs différents. Il a même inscrit un touchdown au sol, en plus des 4 touchdowns qu'il a lancé. Et il a été stratosphérique. Et puis voilà, il l'étale en red zone en plus dans les 20 derniers yards. Là, il y a pas contestation. De toute façon, depuis le début de la saison, il y a été 16 fois, et puis il a réussi 16 passes sur 22, il a inscrit 7 touchdowns dans les airs, 2 au sol, enfin, quand il faut être décisif, Josh Allen, c'est vraiment le maître, quoi.
C'est vrai qu'on avait un petit doute, moi je trouvais en début de saison, on se demandait s'il avait plafonné, on savait pas trop. Là, il y a aussi une différence dans ce match, c'est Stephon Diggs qui a 6 réceptions, 120 yards et 3 touchdowns rien que pour lui, et Gabriel Davis, 3 réceptions, 61 yards, 1 touchdown. Davis qui a marqué 3 touchdowns depuis le début de l'année, qui va mieux. Ça aussi quand même, j'ai l'impression que Gabriel Davis, ça change un peu tout parce qu'il y a une deuxième cible enfin.
C'est ça, exactement. C'est ce qu'on disait depuis le début de la saison dans les podcasts, c'est qu'il manquait cette cible numéro 2. Et voilà, si Gabriel Davis arrive à être cette cible numéro 2, en attendant que le rookie, le premier tour, le Titan, mais qui est plus un receveur dans le slot, Kincaid, se démarre pour être cette deuxième cible, eh ben là, du coup, comment on va les arrêter? Je sais pas, franchement, c'est...
Kincaid qui prend 4 réceptions aussi en étant ciblé 5 fois, donc Kincaid plus Gabriel Davis, ça fait 7 réceptions. Avec Diggs à 6, tu commences à avoir enfin un truc un peu équilibré, j'ai l'impression.
Voilà, c'est ça. Et c'est très important pour que l'attaque tourne, c'est d'avoir un vrai numéro 1, et ça ils l'ont, on le savait de toute façon avec Stephon Diggs, mais un numéro 1 seul, ça suffit pas. Donc si en plus tu commences à avoir un numéro 2, un numéro 3, et puis quelques autres joueurs aussi pour distribuer le ballon, alors là, ben voilà, là ça commence à devenir vraiment une attaque très intéressante.
Très intéressante et donc hyper efficace, on l'a dit, 48 points dans ce match, mais grosse performance défensive aussi de Buffalo, parce que limiter Miami à 20 points, son plus petit score de la saison hein, pour les Dolphins, 4 sacks sur Tua Tagovailoa, ça commence quand même à faire une très belle prestation. Tagovailoa qui s'est retrouvé, donc on l'a dit, sacké 4 fois, c'est aussi une des clés, fallait le bouger, fallait mettre la pression, on a vu qu'il n'avait pas la même capacité que Josh Allen à trouver des solutions hors de la poche ou à improviser, il a été moins fort là-dessus.
C'est ça, exactement, mais de toute façon ça se joue souvent là-dessus, les matchs à NFL c'est vraiment mettre la pression, et pour ça les Bills ils sont trop trop forts, je veux dire, là ils ont signé 4 sacs, mais en fait ils en ont signé 16 en 4 matchs, donc c'est vraiment dans leur moyenne, ils signent du 4 sacs par match, ils mettent beaucoup de pression, et ils ont la recette pour ça, la recette c'est qu'ils ont une grosse rotation sur la ligne défensive, rien que sur ce match il y a 9 linemen défensifs qui ont joué, alors ok, t'as 2 titulaires qui jouent la plupart du temps, c'est Gregory Rousseau à l'extérieur et Ed Oliver à l'intérieur, mais ensuite ils font tourner énormément de joueurs, et ça leur permet de rester frais tout le match, et donc tout le match sur chaque action ils mettent la pression, encore la pression et encore la pression, et petit à petit ça devient injouable pour les attaques adverses.
Je reviens sur Tagovailoa en lui-même, est-ce que tu trouves que ça lui manque encore un peu cette capacité d'improvisation?
Après, il faut jouer sur les qualités d'un quarterback, c'est pas forcément ses qualités à lui. Moi, c'est pas vraiment le point qui m'a manqué dans l'attaque des Dolphins. Moi, je trouve que, moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils ont pas joué au sol. Alors, je veux bien qu'à partir d'un moment, ils ont été menés au score, donc tu veux jouer dans les airs pour gagner beaucoup de terrain. Mais depuis le début de la saison, les Dolphins, c'était la première attaque au sol en yards gagnés par tentative. Pourquoi ils le font pas? Ils ont 2 coureurs très explosifs. Mostert, il a fait quoi, je crois, 9 courses seulement ou 7 courses? C'est pas assez. Voilà, 7 courses. Pour 9 yards, je crois, un truc comme ça. C'est ridicule. Ils ont Devon Achane, on en reparlera. Il a fait un bon match, mais quand t'as un jeu au sol comme ça, il faut t'appuyer là-dessus. Là, c'est pas possible. Ce match, ils ont lancé 35 passes pour 17 courses. C'est pas possible, c'est trop déséquilibré. Et ça protège pas, tu vois, Tagovailoa, tu lui fais porter trop de poids.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai déséquilibre à ce niveau-là, d'autant que ça marchait, parce que tu dis il court 17 fois, alors il court 19 fois, moi j'ai sur les stats, mais pour une moyenne de 7,5 yards par course, donc à Kane, il est à 101 yards en seulement 8 courses, ce qui est quand même assez assez délirant, parce que ça fait 12,6 yards par course, hein. Là on est sur du... dans cette... si ça marchait vraiment comme ça, t'as juste à lui donner le ballon, ça fait first down à chaque fois, mais... Akane, il a quand même, alors Akane ou Ashane, j'espère que je l'écorche pas, mais en tout cas, il a prouvé quand même que c'était pas un feu de paille la semaine dernière, lui, pour le coup.
Non, c'est vraiment un très bon joueur, et puis il dénote pas du tout, au contraire, il correspond très bien à l'attaque des Dolphins, parce que c'est la vitesse, voilà. Devon Achane, tu vois, à l'université de Texas A&M, évidemment qu'il jouait au football, mais il était aussi dans l'équipe d'athlétisme, et Achane, tu vois bien, lors d'une compétition d'athlétisme, il a signé un temps aux 200 mètres de 20,20 secondes, et juste pour te donner un indicateur, c'est que si tu veux être qualifié pour les Jeux Olympiques sur le 200 mètres, tu dois faire au minimum un temps de 20,24, lui il a fait 20,20, donc voilà, t'as compris la flèche, quoi. Et puis évidemment c'est pas juste un sprinter, je veux dire, il joue au football, il comprend aussi les courses, les angles de course, etc. Donc c'est une petite bombe. Moi je suis pas surpris qu'il marche aussi bien en ce début d'année, mais j'étais surpris qu'il ait pas autant de ballons contre les Bills.
Il a 3 réceptions hein, aussi, il peut aussi capter des ballons. On a parlé de l'attaque de Miami, petite déception quand même pour leur défense, parce qu'on a dit qu'ils prennent un carton, que Josh Allen est exceptionnel, etc. Mais la défense de Miami est peut-être un peu sous-performe un peu peut-être depuis le début de la saison. Là, ça a été un révélateur, mais mine de rien, prendre 17 points contre les Patriots, 20 contre les Broncos, qui étaient déjà pas non plus des attaques incroyables, ça aurait pu être un petit signal d'alarme, parce que là, ils en prennent 48 et au final, c'est presque dans la lignée de ce qu'il faisait depuis le début de l'année, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. Bah, tu sais quoi, je vais y aller avec le premier, j'espère le seul poncif que je vais faire aujourd'hui, mais les blessures, ça a vraiment un impact. Et là, on l'a bien vu, la blessure de Jalen Ramsey, le cornerback, ben voilà, Kader Kou, c'est un bon cornerback, on l'avait vu l'année dernière, mais il s'est fait manger tout le match par Stephon Diggs. Et ben voilà, quand tu dois défendre vraiment un receveur numéro un comme Diggs, ben l'absence de Jalen Ramsey, ça te fait mal. Sans compter qu'en plus, il leur manquait leur pass rusher numéro un, Jalen Phillips. Alors je veux bien, Van Ginkel a fait un bon match, il a mis de la pression, mais il te manque ton pass rusher numéro un et il te manque ton cornerback numéro un. Donc forcément, en défense, ça a été compliqué.
Les Bills sont-ils favoris de la FC Est ? On va conclure là-dessus.
Ah bah a priori oui. Alors après, il faut pas du tout enterrer Miami, bien entendu.
Non,
hein. Mais là, vu la démonstration qu'ils ont fait, oui, ils étaient déjà un petit peu en début de saison et là, ils ont confirmé. Donc oui, moi je réponds oui.
En tout cas, ils ont éteint un peu violemment une hype qui s'était créée par le match à 70 points de la semaine d'avant. Bon, ça rééquilibre, mais comme tu le dis, par contre, ça enterre pas du tout Miami. Ça reste une équipe pleine de qualité.
Non, bien sûr, Miami, ben on le verra rebondir, je pense, dès la semaine prochaine, et en plus, ben voilà, ça sera commenté par nos équipes, donc c'est parfait. Mais tu vois, un dernier petit élément, les Bills, alors voilà, en attaque, ils sont extraordinaires, en défense, ils sont quasiment injouables, et en plus, ils sont très disciplinés. C'est simple, c'est l'équipe qui a été le moins pénalisée cette année en NFL, je veux dire, seulement 22 flags lancés contre eux en 4 matchs. En plus, ils sont disciplinés, il leur manque quoi? Donc forcément, oui, favori, oui, oui.
C'est beaucoup moins discipliné, c'est surtout beaucoup moins de victoires pour les Cincinnati Bengals qui se déplaçaient à Tennessee. Ils ont perdu 27 à 3, c'est une victoire donc des Titans évidemment, des Bengals en perdition. 211 yards seulement dans ce match, Joe Burrow est à 20 sur 30 à 165 yards seulement. Est-ce que Jean-Michel, c'est le moment de mettre Joe Burrow au repos? Parce qu'il a quand même l'air clairement de souffrir de son mollet, il n'est plus du tout mobile, c'est très très compliqué.
C'est ça, ça y ressemble vraiment. Je veux dire, on le reconnaît pas, ce joueur. On sait que c'est un très très bon joueur et là, on le reconnaît pas du tout. Il tente que des passes courtes. Il y arrive pas. Je veux dire, il a 2 sur 9 en conversion des troisièmes tentatives. C'est pas possible. Il obtient pas de nouvelles séries. Ça avance pas. Et oui, il a l'air vraiment en difficulté. On voit la pression qui arrive de tous les côtés. Il arrive même pas à faire 2-3 pas de côté pour essayer de s'échapper. Donc, ouais, il y a un problème avec Joe Burrow. Alors, c'est pas le seul à Cincinnati. On va y revenir. Mais déjà, Joe Burrow, ouais, il y a un truc qui va pas.
Est-ce que, je fais un aparté, est-ce que c'est pas une erreur managériale quand même de pas avoir un mec à minima solide ou décent sur le banc? C'est Jake Browning aujourd'hui, on comprend qu'il puisse avoir des réticences, tu veux aller loin, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que sont faits les Andy Dalton et les Teddy Bridgewater de ce monde. C'est quand, parce que Joe Burrow, c'est pas nouveau non plus qu'il soit fragile, malheureusement, il rate quand même des matchs. Ils sont un peu piégés aussi, les Bengals, mine de rien, sur le plan de l'effectif.
Oui, exactement. Moi, j'aime beaucoup les équipes qui, lors de la draft, utilisent, on va dire, un quatrième tour, par exemple, sur un quarterback, parce que c'est tellement important, c'est vraiment la position la plus importante, donc il faut toujours un solide backup, un solide remplaçant, et ça, ils l'ont pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils forcent de laisser Burrow sur le terrain, parce qu'ils savent que derrière, de toute façon, ça sera pas bon, donc
j'ai c'est vraiment un problème. J'ai l'impression qu'ils perdent sur tous les tableaux, c'est-à-dire que si tu le laisses, il n'est pas performant, il risque de se blesser encore plus, parce que jouer de manière limitée, moins bien pouvoir se déplacer quand t'as des mecs de 150 kilos qui essayent de te mettre par terre, c'est quand même rarement une bonne idée. Mais en même temps, ils se disent qu'ils peuvent pas le sortir, donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Et j'ai l'impression, tu le disais, il est pas le seul fautif. En effet, il n'y a pas de progrès sur la ligne, le jeu au sol là était un peu meilleur, mais on a l'impression que ça manque d'idées chez Zach Taylor pour alors déjà pour compenser la blessure de Burrow et même depuis quelques temps pour renouveler un peu, parce qu'on peut pas faire tout le temps la même chose en NFL même si t'es très très bon, et j'ai l'impression que ça manque d'idées.
Oui, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il s'est peut-être reposé un petit peu sur le jeu aérien, disant j'ai un super lanceur, Joe Burrow, j'ai 3 très bons receveurs, allez, on va passer par les airs. Mais si tu regardes bien, depuis le début de la saison, il n'y a pas une autre attaque en NFL qui est autant déséquilibrée. Voilà, sur les 4 premiers matchs, j'ai regardé un petit peu, ils ont lancé 152 passes pour 76 courses. C'est pas possible, c'est exactement moitié moins.
C'est dingue, en plus, sachant que ton quarterback est très peu mobile, quoi.
Exactement, t'as un Joe Burrow en difficulté, t'as un Joe Mixon qui est quand même plutôt un bon coureur, donc tu peux te dire, tu vas équilibrer un petit peu au niveau de l'attaque et puis alimenter un peu plus le jeu aux courses. Ben non, il continue à tenter des passes et ça marche pas. Donc ouais, moi je pense qu'il y a un problème dans le play calling, et puis après, bah évidemment, il y a aussi la défense qui est un gros problème cette année.
J'ai l'impression, pour finir sur l'attaque, que c'est là que tu vois la différence un peu entre des coachs comme des Mike McDaniel, des Shanahan ou des Sean McVay qui vont trouver des solutions, quels que soient les mecs qu'on leur met à dispo. On va pas parler Odell Rams aujourd'hui, mais les Kevin Williams, les etc. qui se débrouillent et des coachs qui sont plus dépendants d'individualité. Et ce qui a l'air d'être le cas de Zach Taylor, qui ne peut pas s'en sortir par lui-même et qui se retrouve dans une impasse, clairement, là, avec un Joe Burrow qui est sur une jambe et un jeu. Il essaye de jouer de la même manière, ce qui n'est pas possible, quoi. Ce qui est vraiment pas possible. La défense, tu le disais, elle a craqué face à des Titans qui, pourtant, bon, ne sont pas l'équipe non plus la plus originale de la ligue. On sait que ça va arriver en puissance. Il faut leur reconnaître, c'est-à-dire que les Titans, ils aiment bien imposer le défi physique. Ils ont marqué 3 touchdowns dans le second quart pour mener 24-3 à la pause, c'était plié. On a retrouvé les Titans version Mike Vrabel, hein. C'est hyper physique en défense, c'est hyper physique en attaque avec Derrick Henry là, qui porte 22 fois le ballon. Ils sont fidèles à eux-mêmes.
Oui, c'est ça, exactement. Ils ont leur ADN. Hein. Comme tu dis, on les attendait comme ça en début de saison et c'est ce qu'ils font. Voilà, du gros jeu au sol, bien physique, et puis une grosse défense qui met beaucoup de pression. Donc voilà, c'est pas une surprise. En plus, là, ils ont vraiment bien fait. Cincinnati, depuis le début de l'année, la défense contre la course est pitoyable. Eux, ils courent bien. Donc du coup, ils se sont dit, on va continuer comme ça. Et effectivement, ça a marché. On a bien vu Cincinnati. C'est incroyable le nombre de plaquages manqués qu'ils ont en défense. C'est pas possible. Et en face, Derrick Henry, qui semble renaître, qui fait un gros, gros match. Il y a le jeune Tajay Pierce aussi, qui est un bon joueur, qui est très complémentaire en plus. Et du coup, voilà, il te suffit d'avoir un Tannehill propre. Alors, je veux bien, il a lancé une interception qui est pas belle du tout. Mais sinon, sur le reste, il fait un 18/25, il est propre, il fait son game manager qu'il faut, et puis Derrick Henry qui enfonce au sol. Et ça y est, c'est terminé, c'est réglé.
Ils sont dans leur configuration idéale, tu le disais, Derrick Henry à 122 yards en 22 courses, ils lancent même un touchdown. Derrick Henry, ils aiment bien ce genre de formation, un peu, ils ont sorti Jeffrey Simmons pour le mettre aussi en attaque sur cette action là avec Derrick Henry, ils aiment bien faire ce genre de choses là. Donc ils ont été dans leur registre. Mais tu le disais, la défense de Cincinnati, est-ce que là c'est pareil, même question que pour l'attaque, est-ce que c'est une question de schéma ou est-ce que c'est une question de talent?
Oh, le talent, il en, je pense. Et puis, les schémas, ils nous ont prouvé l'année dernière qu'ils étaient capables de faire bien mieux. Je sais pas si c'est un manque de concentration ou d'implication. Là, j'ai lu un petit peu des commentaires de, par exemple, DJ Reader, qui disait, il va falloir qu'on se remette en question, de Logan Wilson, qui disait, bon, c'est pas possible, il faut pas qu'on continue comme ça, il faut vraiment qu'on se parle, etc. Donc, ils peuvent rebondir, le talent, il en, mais pour l'instant, ça clique vraiment pas. Ne serait-ce que rater des plaquages, on le voyait, ils y étaient sur les situations, sauf que, ils mettent la main sur le joueur et le joueur continue à avancer, donc c'est pas possible.
Parce qu'il reste sur avec Lou Anarumo qui est quand même un excellent coordinateur, oui. Hein, aux dernières nouvelles. Donc là on est vraiment sur du problème pour l'instant purement d'exécution, ça peut se corriger.
Oui, je pense. Le talent est là, il y a le bon coordinateur aussi. Et puis de toute façon, ils peuvent faire pire, hein, quelque part. Oui. Donc du coup, ça peut que rebondir. Allez, il y a des petits points d'espoir aussi. Au niveau de la défense aérienne, ça va un peu mieux. On voit le jeune Daxton Hill qui se montre, etc. Ils arrivent à mettre un petit peu de pression. On a vu le premier sac du jeune Malice Murphy. Il y a toujours Trey Nixon, mais c'est vraiment la défense contre la course. C'est quand même la base du football. Je veux bien que ce soit une ligue de plus en plus aérienne, mais bon, courir et défendre la course, ça reste la base. Et oui, il faut qu'ils rebondissent.
Maintenant, la question sera de savoir à quelle vitesse ils vont rebondir, puisqu'ils sont à 1-3 avec un quarterback blessé. Ils sont derniers de leur division, derrière les Browns, derrière les Steelers, derrière les Ravens, surtout qu'ils sont à 3-1. Donc, ils commencent quand même, mine de rien, à y avoir le feu. On sait que la saison à 17 matchs a un peu rebattu les cartes. Je vais pas vous sortir les statistiques des équipes en playoff à 1-3, puisqu'il n'y a plus le même nombre de matchs depuis 2 ans. Mais voilà. Et on sait que c'est une équipe qui peut très bien partir sur un run de 5, 6, 8 victoires de suite. Mais il va commencer à y avoir doucement le feu, en tout cas. Je jette un œil sur leur calendrier.
Cardinals, le prochain.
Cardinals pour se relancer. Après, derrière, Seahawks, 49ers, Bills. Hein.
Et pour une équipe qui a du mal à défendre le jeu au sol, ça va être compliqué. Hein. Les 49ers, ouais. Ça va être compliqué, là.
Ça sent très mauvais. On va pas les enterrer tout de suite, mais ça sent quand même très, très mauvais pour Cincinnati. Et c'est pour ça que je parlais de mettre Joe Burrow sur le côté. Est-ce qu'au bout d'un moment... Si tu t'enfonces à 1-4-5, il va peut-être pas falloir quand même dire ok, là il faut qu'il se remette, quitte à rejouer plus tard dans la saison, mais il va quand même falloir faire quelque chose. Bon, les Titans, on l'a dit, c'est pas l'équipe la plus glamour, mais mine de rien, alors eux ils sont dans la division la plus équilibrée, en tout cas statistiquement de la ligue. Hein. Le classement, Colts 2-2, Texans 2-2, Jaguars 2-2, Titans 2-2. J'ai l'impression que c'est l'équipe la plus stable de cette division. En tout cas, on sait ce qu'elle va proposer, donc on sait qu'ils seront là à la fin de l'année. Mais j'ai du mal à te dire, c'est presque un sujet pour une autre émission, mais je ne sais pas te dire qui des Colts, des Texans ou des Jaguars, par contre, sera le plus stable pour se battre avec eux. J'ai l'impression que les Titans seront l'équipe avec laquelle quelqu'un va se battre pour le titre de division, mais on sait, a priori, les Jaguars, mais...
Mais oui, c'est très très équilibré. D'ailleurs, c'est ce qui rend cette division intéressante, parce que sinon, c'est pas non plus la plus compétitive. Mais du coup, comme c'est très serré, c'est intéressant. Après, c'est pas une surprise non plus que les Titans soient finalement les plus fiables, parce que quand tu vois de l'effectif, c'est quand même l'équipe où il y a quelques joueurs comme ça confirmés. C'est là qu'il y en a le plus. Tu as du DeAndre Hopkins et du Derek Henry en attaque. Tu as du Jeffrey Simmons et du Kevin Byard en défense. Le linebacker Al-Shaïr aussi, qui voilà, c'est une valeur sûre. Donc, ils ont comme ça des joueurs solides, des leaders qui te permettent de confirmer et de faire un jeu pas forcément spectaculaire mais solide.
Oui, et puis c'est eux qui ont la plus grosse expérience aussi de gérer une saison complète pour aller chercher des playoffs, donc ça a quand même une influence aussi, mine de rien. En parlant de playoffs, pour l'instant, les Buccaneers y seraient, j'aime bien dire ça parce que ça fait que 4 matchs, donc ça n'a pas vraiment une valeur incroyable, mais les Buccaneers seraient qualifiés en playoffs à l'heure actuelle. En tout cas, ils sont désormais en tête de la NFC Sud parce qu'ils sont allés à New Orleans pour battre les Saints 26-9. C'était donc le choc au sommaire de la NFC Sud avec la première place en jeu. Victoire plutôt confortable pour les Buccaneers qui prennent la tête de la division. Baker Mayfield, 25 sur 32, 246 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Il est plutôt convaincant, Baker Mayfield, depuis le début de l'année.
Ben ouais, exactement. Moi, de toute façon, j'ai toujours aimé son côté leader. Donc, on a vraiment l'impression qu'il amène tout le monde avec lui, que tout le monde le suit. Puis, on y va. Voilà, on arrive à faire un bon jeu, puis à gagner des matchs, à avancer sur le terrain. Et puis, bon, faut dire une chose quand même par rapport à Baker Mayfield, c'est la façon dont il est protégé par cette ligne offensive. C'est incroyable. Voilà, il a concédé un sac sur ce match, seulement 4 en 4 matchs en 2023. La ligne offensive tient vraiment le coup. Et puis, voilà, en tête d'affiche, il y a le tackle gauche, Tristan Wirfs, qui est vraiment impressionnant. Il a joué les 4 matchs en intégralité, et ses stats, c'est une pénalité, 0 sac concédé. C'est sans doute un des meilleurs left tackle de toute la NFL. Et cette ligne offensive permet à Baker Mayfield, ben voilà, de faire une première lecture, la deuxième, et puis hop, je trouve une solution et je distribue comme ça, c'est très équilibré. Donc ouais, ça fonctionne bien.
J'ai l'impression qu'on l'a un peu, peut-être, je sais pas si c'est oublié ou sous-estimé, mais j'ai l'impression que le petit passage Carolina raté, en fait, a fait un peu baisser sa cote. Il n'était pas exceptionnel, c'était pas le plus grand franchise quarterback du monde quand il était à Cleveland, mais il s'est un peu fait virer comme un malpropre quand même quand ils ont pris Watson. Et on oublie un peu qu'il avait une saison à 26 touchdowns pour 8 interceptions, qu'il les a emmenés en playoff. Alors ça avait été un peu moins bien en 2021, mais je crois qu'il était un peu blessé, si j'oublie pas, il y avait une histoire comme ça. Mais il n'était pas... et j'ai l'impression que sa cote s'est effondrée pour quelques matchs qui n'étaient pas convaincants à Carolina, alors que c'était quand même une équipe qui a fini avec le premier choix de la draft, par un échange, mais avec le premier choix de la draft, qui était très bas dans le tableau, qui avait quand même pas mal de problèmes, de coach, etc. Finalement, c'est un ancien numéro 1 de la draft. Il a toujours que 28 ans, ce qui est plus très très vieux en termes de NFL. Et il a quand même pas mal d'expérience, il a depuis 2018. Donc finalement, et je dis ça pour moi aussi, hein, je pense, parce que je les avais beaucoup sous-estimés, les Buccaneers, dans les previews, mais tu le disais, très bonne ligne, des receveurs, bon bah Mike Evans, Chris Godwin, c'est quand même toujours du costaud, et la défense, on parle de jeunes, Antoine Winfield partout dans ce match, 9 plaquages, 1 sac, 2 plaquages pour perte, un fumble forcé, un fumble recouvert, une passe déviée, j'ai tout noté parce qu'il y en avait du monde, c'est aussi le symbole d'une des défenses qui reste parmi les meilleures de la ligue.
Bah c'est ça, bah déjà de toute façon c'est pas une surprise, on savait qu'il serait très bien entraîné par Todd Bowles qui est un spécialiste défensif, et puis même si c'est un sport collectif bien entendu, mais les individualités te permettent de faire la différence. Tu viens de parler d'Antoine Winfield qui est extraordinaire sur la ligne arrière, mais au milieu tu as aussi Lamonté David et Devin White, devant tu as Vita Vea qui est incroyable, qui a encore fait un match énorme là contre les Saints, donc voilà, tu as... Ah oui, donc du coup, t'as un très bon entraîneur, tu as un bon collectif rodé, et en plus, t'as des individualités qui te permettent de faire la différence. Donc du coup, ça marche mieux que ce qu'on pouvait attendre.
Et du coup, ils sont plus convaincants que toutes les équipes de la division. Enfin, ils ont l'air d'être les plus complets.
Bah oui, moi je pense, hein, oui, parce que les Falcons ont des armes, Atlanta, bien entendu, mais après les Saints, on va en parler, c'est pas ça du tout, et les Buccaneers, ils sont là, alors que Carolina, bon, c'est une équipe encore jeune, en reconstruction, on le voit bien, donc, ouais, pour moi, ils font figure de favoris de la division. Hein.
Qu'est-ce qui ne va pas alors chez les Saints? Tu disais, ça ne va pas du tout. C'est quoi qui t'a frappé le plus?
Non, ça va. Bah, ce qui va pas du tout, déjà, c'est que c'était le 10e match d'affilée que les Saints ne marquent pas plus de 21 points. Cette année, ils ont joué 4 matchs, ils ont pas marqué une seule fois plus de 21 points. Donc, déjà, à partir de là, c'est qu'il y a un problème. Alors que tu as Chris Olave, Alvin Kamara, Michael Thomas qui est de retour, tu as le jeune Shahid, une petite bombe, tu as Taysom Hill pour faire des jeux feintés, etc. Et tu marques pas. Donc, déjà, c'est qu'il y a un problème. Et puis, tu vois, par exemple, on sait très bien que la troisième tentative, c'est la tentative la plus importante. Ben, face à Green Bay, ils ont fait un 8 sur 18. Et face aux Bucks, ils ont fait un 5 sur 14 en troisième tentative. Ben, voilà. Donc, tes séries, elles s'arrêtent brusquement. Et la défense, elle peut pas tout faire. Donc, il y a vraiment un problème offensif, là, avec New Orleans.
À la décharge de Derek Carr, j'ai quand même l'impression qu'il était toujours limité par sa douleur à l'épaule. Il était touché au dernier match. On pensait même qu'il manquerait celui-là. Et puis finalement, il était un peu là par surprise. La plus longue action des Saints dans ce match, c'est 20 yards. Ils ont pas marqué un seul touchdown. Un 26-9, c'est 3 field goals. Ils terminent à 197 yards au total, ce qui est évidemment famélique. Tampa menait 14-3 à la pause. Et franchement, en effet, même avec Alvin Kamara qui était de retour dans ce match, je sais pas toi, mais moi j'avais l'impression, il y a aucun moment où tu te dis bon bah ils peuvent faire un run et remonter quoi. Même à 14-3, tu te dis bon a priori c'est un peu fini. Non, quoi.
Mais c'est ça qui est fou. Après je me permettrai pas, je suis pas entraîneur, mais je comprends pas qu'une équipe avec autant d'armes, il marque 4 touchdowns en attaque en 4 matchs. C'est pas possible, c'est totalement insuffisant. Alors c'est vrai que Derek Carr il est pas aidé par sa ligne offensive hein, parce que il se fait aplatir au sol constamment. Il est tout le temps sur pression. Mais il y a un problème je pense dans les schémas. C'est pas possible parce que là tu peux pas faire aussi peu que ça avec toutes les armes que t'as. Tu avances pas sur le terrain, tu marques pas un point. C'est juste pas possible.
C'est là que je voulais t'emmener, très honnêtement. C'est vrai que le problème a surtout l'air d'être dans le coaching au niveau de cette équipe. Parce que le talent, bon, oui, la ligne est moyenne, mais ce serait pas la première équipe à surmonter une ligne moyenne grâce à des très bons skill players. Donc, a priori, il y a quand même un truc dans le coaching là, qui clique pas sur cette équipe des Saints.
Ah oui, ben d'ailleurs quand tu vas sur les sites spécialisés sur les Saints, je veux dire tout le monde demande la tête de Pete Carmichael, le coordinateur offensif, et je peux le comprendre parce que voilà, a priori il a à disposition un super matos et ça clique pas, donc il y a vraiment un problème quelque part.
Il y a une stat qui est assez folle parce que tu disais c'est leur 10e match en dessous des 20 points, des 21 points.
Ouais.
Et en fait il y avait une stat qui était folle, c'est qu'ils étaient sur 20 matchs de suite avec 20 points ou moins encaissés en défense.
Et j'avoue, eh oui.
quand j'ai vu la stat, je me suis dit, mais attends, ils ont une défense de dingue, comment ça se fait qu'ils gagnent pas plus de matchs? Bah, en fait, c'est parce que l'attaque performe pas du tout, donc, tu peux avoir une défense. Parce que c'est quand même une énorme performance, 20 matchs de suite avec 20 points maximum encaissés en NFL. Surtout quand
exactement.
On voit les attaques
actuelles. Tu regardes que, pardon, si tu regardes même que cette année, je veux dire, la défense des Saints, ils sont 11e au sol et puis 12e dans les airs. Et ils sont 8e en ballon récupéré. Donc vraiment, la défense, elle fait le taf. Alors je veux bien, là, ils ont encaissé 26 points. Mais sinon, la défense, elle fait vraiment le boulot. Sauf qu'elle peut pas tout faire. Vu que l'attaque n'avance pas et ne marque pas de points, ben, au bout d'un moment, ça craque. Parce que, ils ont commencé par 2 victoires. Ok, je veux bien. Mais attention, les victoires. Ils ont gagné de 1 point face aux Titans et de 3 points face aux Panthers. Donc ça cachait déjà. C'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt déjà. Puis là, ils enchaînent avec 2 défaites. Et ouais, il y a pas de miracle. Là, il n'y a pas de secret.
Non, c'est vrai que c'est assez limité et c'est dommage parce que je sais pas, toi, ça me rend toujours triste quand on gâche une belle défense.
Ah ben oui, ah ben oui. Mais même eux, je pense que c'est eux les premiers tristes, surtout les défenseurs, ils doivent se dire c'est pas possible. Nous on fait le boulot, on se démène sur le terrain et puis on y retourne tout le temps sur le terrain puisque l'attaque elle avance pas. Donc ouais. Ben Denis Allen, on le sait, l'entraîneur, c'est un spécialiste défensif. Ben de ce côté-là, il tient bien la baraque, mais il manque vraiment un coordinateur offensif, quelqu'un d'un peu créatif qui pourrait faire des choses en attaque. Il y a du matos pour, donc il va falloir qu'il déclenche quelque chose. Je sais pas si ça va être sur une embauche de quelqu'un ou alors en promotion interne peut-être, ou alors changer des schémas ou de philosophie de jeu, mais il faut qu'il change quelque chose en attaque.
C'est la bonne nouvelle pour Denis Allen, c'est que ça lui fait un fusible au moins. Il peut dire non, moi c'est la défense mon truc, la défense elle performe, on va voir avec Pete Carmichael et puis on se débrouillera ensuite. Mais ça lui donne un petit sursis, mais clairement c'est vrai que cette équipe a l'air de sous-performer, ce qui est un peu un miroir de Tampa qui a l'air justement d'être très solide et de bien faire avec ce qu'ils ont. Et on a vu un peu la différence entre ces deux équipes dans ce match. Bah, c'est comme ça qu'on termine le débrief des affiches. Merci beaucoup Jean-Michel.
Bah, merci Alain, bonne semaine à tout le monde.
Toujours un plaisir en tout cas de t'avoir au micro. C'est la fin de l'épisode 641. On parle du débrief de tous les autres matchs dans l'émission de demain. Ce sera avec Raphaël Masmejean et Lucas Vola. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com et les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, tout est sur le site. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.
analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.